France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La guerre, proche ou lointaine, semble de plus en plus présente dans nos vies. Alors un mystère demeure face à cela. Eh bien, où sont passés les pacifistes? Si les premières sociétés pacifistes sont d'abord d'obédience chrétienne puis libérale, c'est bien à la fin du 19e siècle, avec l'émergence du socialisme, que le pacifisme s'ancre politiquement et durablement à gauche. Pourtant, le 20e siècle a montré des divergences profondes dans le rapport à la paix au sein des gauches. Divergences qui s'expriment de nouveau avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors doit-on faire la guerre pour avoir la paix? Ceux qui s'y opposent sont-ils pacifistes ou campistes? Nous définirons les termes avec notre invité de ce soir, Nicolo Funstadt. Bienvenue et bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur à l'Université Paris 1. Vous êtes spécialiste des questions mémorielles et notamment de la Première Guerre mondiale. Avec nous également Julien Bisson. Bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes avec nous comme chaque mercredi et vous êtes toujours directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
L'Europe est au pied du mur. Elle ne peut rester soumise aux soubresauts de la politique américaine. Le groupe écologiste et social soutient donc un engagement militaire renforcé à destination de l'Ukraine, notamment par la fourniture d'équipements de défense avancée, la formation des forces ukrainiennes et le renforcement des troupes européennes dans les pays frontaliers de l'Ukraine.
La députée Cyrielle Chatelain, députée de l'Isère, Europe Écologie Les Verts, elle s'exprimait à l'Assemblée nationale le 3 mars dernier. Nicolo Funstadt, si on a souhaité commencer avec ces propos de Cyrielle Chatelain, c'est parce qu'Europe Écologie Les Verts tenait à une époque, il n'y a pas si longtemps, une toute autre position. Il se définissait comme pacifiste. Comment expliquer ce changement de pied? Qu'est-ce qu'il raconte plus exactement?
Alors, il raconte beaucoup de choses et effectivement, c'est un très bon point de départ, l'écologie, parce que fondamentalement, l'écologie est aussi née du pacifisme. C'est-à-dire que les deux étaient très proches. Une très grande figure, une figure fondatrice du pacifisme et de l'écologie, c'est René Dumont. Premier candidat écologiste à la présidentielle, c'est quelqu'un qui, dans les années 30, avait été un militant pacifiste intégral, hein, face au fascisme. Donc, il y avait une très forte tradition dans l'écologie, évidemment, de porter le pacifisme, qui a été renforcée par le développement du nucléaire, qui, évidemment, était une des causes fondamentales de l'écologie, hein, la lutte contre le nucléaire, avec des formes parfois très actives, très violentes. Donc, c'est la grande cause des années 1970-1980. Donc, on pourrait se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on est passé, hein, de cet environnement extrêmement anti-guerre, anti-nucléaire, donc forcément aussi pour la paix, à effectivement la position qu'on vient d'écouter. Alors, il y a plusieurs éléments. Un premier élément, d'abord, c'est que les Verts sont devenus aussi un parti de gouvernement, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne. Donc, il y a eu un tournant réaliste, hein, qui s'est déjà opéré, qui était donc, dans le fond, de juger les conflits non plus selon un point de vue théorique, qui serait pas de guerre, pas de nucléaire, parce que le nucléaire, c'est la destruction de la nature, de la planète, etc. Mais dans le fond, de juger en fonction des enjeux contingents. Et cette mutation, on l'a vu très vite aussi chez les Verts allemands, qui ont gouverné avec les socialistes. Donc, il y a une mutation, on pourrait dire, réaliste chez les Verts, qui fait que ce fondement théorique du pacifisme a pris moins de place.
Julien Bisson.
Si les Verts ne portent plus le pacifisme, qui est-ce qui a pu prendre le relais? Qui brandit aujourd'hui le flambeau du pacifisme, y compris d'ailleurs au sein de la société? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mouvements pacifistes qui continuent à brandir cet idéal?
Je trouve que la question de départ que posait tout à l'heure Quentin, où sont les pacifistes, elle est bien posée, parce que il faut rappeler quelque chose, c'est que le pacifisme, c'est pas seulement une position qui peut être incarnée par un parti, par un groupe, c'était des mouvements. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements dont la seule raison d'être, on a ça depuis la fin du 19e siècle, c'était de lutter pour la paix. Donc il y avait non seulement les gens qui étaient pour la paix dans les partis, hein, au sein du Parti communiste, il y avait beaucoup d'actions, Parti socialiste, même à droite, hein, il y avait des gens qui militaient pour l'Europe, pour un monde plus pacifié, mais il y avait aussi ces associations. Une des plus importantes à la fin du 19e siècle s'appelait la paix par le droit. Il y a eu ensuite la Ligue des combattants de la paix, il y a eu le mouvement de la paix. Donc il faut rappeler aussi qu'il y avait toute cette nébuleuse de militants, d'activistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont largement disparu. Ils existent encore, bien sûr qu'il y a des associations, mais ils n'ont pas l'ampleur qu'ils ont pu avoir. Alors ça tient à des tas de conjonctures historiques sur lesquelles on reviendra sans doute.
On y reviendra, évidemment, même la position peut-être la plus troublante, c'est celle du Parti communiste français qui a à l'égard de l'Ukraine une position que l'on pourrait peut-être, vous nous le direz, qualifier de pacifiste. Sur le site du PCF, il est inscrit « L'Europe a besoin de l'ouverture de négociations de paix et de sécurité collective. L'enfermement dans l'OTAN, bras armé de l'impérialisme américain, ne peut mener qu'à la catastrophe ». Fin de citation. Et l'on a entendu à travers les télés, les radios, les représentants du Parti communiste français depuis plusieurs années, pointer les va-t-en-guerre, celles et ceux qui voudraient forcer une guerre en Ukraine. Comment comprendre cette position du PCF ?
Alors, elle est évidemment très intéressante parce qu'elle s'inscrit dans le temps long. Dans le fond, le Parti communiste a toujours eu un rapport ambigu à la guerre et à la paix. Il y avait l'idée, comme un parti communiste, donc qui est pour le progrès, pour l'émancipation, que la paix est évidemment une valeur forte, d'autant plus que qui est-ce qui se déchire dans les guerres ? C'est souvent les prolétaires. C'est évidemment pas les élites contre lesquelles le PC peut se dresser qui vont aller se battre.
Et au bénéfice du capitalisme.
Au bénéfice du capitalisme et de l'impérialisme, qui était le fondement de l'analyse. Donc il y a évidemment un antimilitarisme, une position anti-guerre qui est très forte dans l'histoire du communisme, depuis qu'il existe, depuis en particulier la Révolution. Mais il y a un autre aspect, c'est que si on veut renverser un régime hostile, le régime capitaliste, si on veut lutter contre l'impérialisme, parfois il faut prendre les armes. Et donc du coup, il n'y a pas de pacifisme intégral dans le communisme, il y a un pacifisme qui est aussi, là aussi, conjoncturel. Et d'ailleurs, c'est dit très clairement chez beaucoup de militants tout au long du XXe siècle, il y a des guerres justes. Les guerres justes, c'est celles qui sont libératrices, qui libère le prolétariat du joug du capitalisme et de l'impérialisme. Donc, vous voyez, il n'y a pas de position dogmatique. Elle dépend en particulier de la guerre qui est menée. Cette idée de guerre juste, elle est fondamentale. D'ailleurs, c'est aussi ce qui, dans le fond, motive les Verts. C'est de dire que l'Ukraine, c'est une guerre juste. C'est intéressant parce que c'est une notion qui est aussi chrétienne. Mais dans le fond, les communistes l'utilisent. Et donc, il y a des guerres justes et des guerres injustes. Quand la guerre est injuste, alors il faut se dresser de toutes ses forces contre cette position et contre toute forme de militarisme.
Julien Bisson.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de pacifisme qui s'opposerait à toutes les guerres, n'importe lesquelles, même contre la barbarie ?
Si, il a largement disparu. C'est ce qu'on a appelé le pacifisme intégral, notamment, que les Anglais appellent tout simplement le pacifisme, parce que pour eux, quand on est pacifiste, on est contre toutes les guerres. En anglais, c'est pacifism. Mais en français, on l'a souvent dit par pacifisme absolu ou intégral. C'est un mot qui s'est beaucoup développé après la Première Guerre mondiale, après les violences. Et c'était l'idée que toute guerre est forcément une horreur, donc c'est le mal absolu. Donc tout est mieux que la guerre. Et c'est très important votre question, parce que ça aide à comprendre pourquoi, face à Hitler, beaucoup de gens ont dit « mais il vaut mieux négocier ». Il vaut mieux négocier, parce que qu'est-ce que vous voulez ? Bon, bien sûr, le régime est déplaisant, bien sûr, il y a des mesures antisémites, on a vu ces pogroms, la nuit de cristal, mais dans le fond, la guerre, c'est pire que tout ça. Regardez ce qui s'est passé en 14-18.
La guerre pire que le fascisme, donc.
C'était l'idée. En effet, parce que ce qu'il faut imaginer à l'époque, il faut toujours se placer, évidemment, quand on fait de l'histoire sur les représentations des gens, l'horreur absolue, c'était pas ce qui allait venir. C'était pas la Shoah, c'était pas la Seconde Guerre mondiale, mais c'était la première, c'était les tranchées. Donc les pacifistes ne voulaient pas éviter une guerre qu'ils n'imaginaient pas, la Seconde avec toutes ses horreurs, à Auschwitz, mais ils voulaient éviter Verdun, ils voulaient éviter les tranchées. Donc là, il y avait vraiment un pacifisme absolu, rien ne vaut la guerre. Et ça, c'est évidemment une position qui s'est beaucoup affaiblie. Pourquoi elle s'affaiblit ? C'est intéressant parce qu'on en parle aujourd'hui dans l'actualité. Eh ben parce qu'on s'est rendu compte que face aux fascistes, dans le fond, elle avait eu beaucoup de faiblesse, cette position. Mmh. Parce que du coup, il y a des horreurs plus grandes que le fait de ne pas céder à la guerre.
On va revenir à cet esprit de Munich que vous avez circonscrit. Mais avant cela, peut-être un élément de définition. Qu'est-ce qui distingue le pacifisme de l'antimilitarisme ? Est-ce que ces deux notions ont une proximité, selon vous ?
Alors, bien sûr, il y a des liens. Mais l'antimilitarisme est une notion qui est plus restreinte et qui désigne plusieurs choses. D'abord, ça peut être l'hostilité à l'armée comme institution politique conservatrice, oppressive. Et on peut être antimilitariste parce qu'on trouve que l'armée traite mal les conscrits. C'était le cas notamment au 19e siècle. On peut être antimilitariste aussi, et c'était le cas de beaucoup de libéraux et de démocrates au 19e siècle, parce qu'on trouve que l'armée avait trop de place dans la société. Donc on était contre un système militariste, c'est-à-dire où l'armée occupe trop de place. Donc vous voyez, c'est l'antimilitarisme est centré sur une lutte contre l'armée, contre sa présence dans la société et contre ce qu'elle fait subir au peuple.
Mais est-ce qu'on peut être antimilitariste sans être pacifiste ?
Oui, tout à fait, parce qu'on peut, d'une certaine manière, on peut être antimilitariste en considérant que l'armée telle qu'elle était, et ça a été le cas dans l'histoire, est une armée d'oppression, une armée au service des élites capitalistes, au service d'un régime oppressif, et qu'une armée populaire serait, dans le fond, une solution parce qu'elle ne ferait que des bonnes guerres. Donc oui, on peut, d'une certaine manière, être antimilitariste. En tous les cas, dans l'histoire, il y a eu des moments, et en même temps, accepter un certain nombre de guerres quand elles sont menées pour des causes justes dans des conditions qu'on considère comme acceptables.
Julien Bisson.
Pourquoi est-ce qu'on identifie davantage le pacifisme à la gauche? Est-ce que ça a des racines historiques profondes ou est-ce que ça a pu beaucoup changer au fil des décennies et des siècles?
Ça a un fondement réel parce que, dans le fond, pour l'histoire du pacifisme en tant que mouvement organisé, elle remonte au second 19e siècle. Et elle a été portée principalement par trois courants. On peut dire, dans le fond, un courant démocrate républicain qui considérait que la guerre, dans le fond, n'était pas une forme de progrès, mais c'était une forme de régression de l'humanité. Et donc, vous savez, ces républicains, fondateurs de la Troisième République, plein d'idéalisme, en disant, ben voilà, avec la République, la démocratie, naturellement, ça doit être la fin des guerres qui, évidemment, ne servent pas un monde apaisé. Donc, vous avez une tradition démocrate, libérale, qui était parfois très importante. Vous avez une tradition socialiste. Et vous avez une tradition anarchiste, c'est les principales, même s'il y a aussi une tradition chrétienne. Donc tout ça fait que c'est plutôt effectivement dans un milieu de gauche humaniste qui réfléchit en termes d'émancipation que le pacifisme a trouvé ses racines. D'autant plus que au 19e siècle en particulier, les régimes les plus durs, les plus conservateurs s'appuyaient souvent sur l'armée, hein, sur une armée qui avait une place importante dans les régimes. Donc du coup, il y avait aussi une association entre l'armée, la guerre et les régimes autoritaires.
Je souhaiterais qu'on s'arrête un instant sur une date, 1914, le début de la Première Guerre mondiale, un clivage fondateur. D'un côté, les partisans de l'Union sacrée, celles et ceux qui voudraient rassembler l'ensemble des partis politiques de l'échiquier français pour faire face, pour permettre justement un front uni dans la guerre. Et de l'autre, les pacifistes, ceux qui veulent à tout prix laisser les armes à terre. Comment est-ce que ce clivage a-t-il été fondateur dans l'histoire du pacifisme?
En réalité, 14, c'est un bon exemple parce que ça montre que le pacifisme, c'est une notion complexe, c'est que beaucoup de pacifistes se sont ralliés à la guerre, en fait. C'est-à-dire que l'idée nationale, l'idée de cette guerre juste, que bon, bien sûr, on est pour la paix, bien sûr, on était pour construire un monde plus juste, bien sûr, on avait essayé d'organiser les relations internationales, mais en réalité, face à une guerre qu'on juge menée par l'autre comme injuste, et donc se défendre devient juste, alors beaucoup de pacifistes, et ça a beaucoup étonné, hein, c'est une forme de mystère historique, hein, 14 de ce point de vue-là, beaucoup de pacifistes se sont ralliés à la défense nationale, en disant, bien sûr, on est contre la guerre, bien sûr, c'est une horreur, bien sûr, il faut la limiter, mais là, il faut y aller, parce que l'adversaire, en fait, nous menace.
L'Union sacrée a tout emporté ?
Elle a quasiment tout emporté. Il y a très peu de voix contre la guerre en 1914. Il y en a, mais il y en a très peu. Et c'est progressivement qu'elles vont se dresser quand la guerre va montrer toutes ses horreurs et qu'il va devenir possible, dans le fond, d'exercer une critique. Mais en 14, d'autant plus que les pays sont menacés. Hein, la France risque d'être envahie avant la bataille de la Marne. Donc, il y a aussi une question de défense nationale très concrète du territoire. Ben, ça, effectivement, va emporter tout un ensemble de discours pacifistes d'avant 14. C'est d'ailleurs assez fascinant hein, comme phénomène, l'Union sacrée, parce qu'effectivement, on se serait attendu. Tout le monde dit, si Jaurès n'avait pas été assassiné, grande parole de paix, ben, sans doute ça aurait été autre chose. Ben non, parce que dans le fond, Jaurès était comme les autres, hein, devant la guerre injuste. Hein, beaucoup avaient dit, dans ce cas-là, il faut se défendre.
Et on pense souvent à Romain Rolland qui souhaitait placer les autres au-dessus de la mêlée, pour reprendre son expression, c'était une voix solitaire.
Oui, c'était une voix très isolée. Il y avait bien sûr des intellectuels, vous avez raison de le dire. Il y en avait en France, il y en avait en Angleterre, qui vont commencer à prendre la parole. Mais il va falloir attendre, en quelque sorte, que le front soit stabilisé, que les institutions reprennent pour certaines vies, pour qu'il y ait une parole critique contre la guerre. Avant, c'était vraiment des voix isolées, qui en plus étaient réprimées, hein, parce qu'il y avait la censure, il y avait des arrestations. Donc c'était pas évident d'être pacifiste en 1914. Non seulement parce que, effectivement, la majorité de l'opinion était pour la défense, mais aussi parce qu'il y avait un risque hein, de répression des institutions étatiques.
Julien Bisson.
Est-ce que, à contrario, dans les années 20, avec le traumatisme de la Grande Guerre, le pacifisme va connaître son âge d'or, y compris à droite d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. Parce que là, c'est vraiment un moment crucial de l'histoire du pacifisme. C'est qu'on sort d'une guerre qui a été évidemment un massacre épouvantable. Et beaucoup de ceux qui l'ont faite n'en veulent plus. Hein, donc ne reviennent pas en étant uniquement fiers d'avoir combattu, mais aussi avec tout le souvenir des horreurs, des camarades morts dans des conditions terrifiantes. Hein. Donc 10 millions de morts, hein, de la jeunesse européenne fauchée, sans compter les blessés, les veuves, les orphelins. Donc c'est un monde ravagé par la guerre, sans même parler des ravages physiques des territoires qui l'ont subi. Donc il y a un mouvement pacifiste colossal qui se développe partout, dans toute l'Europe et ailleurs d'ailleurs, hein, aux États-Unis, en Australie, qui est très marquant. Le colonel Mayer, qui est un officier intellectuel proche de De Gaulle, de Martin Dugard, disait « Jamais il n'y a eu un tel antimilitarisme ». Il le constatait lui-même dans les années 20, y compris même par les anciens combattants. Antoine Pro l'avait montré il y a bien longtemps dans sa thèse. Les anciens combattants eux-mêmes reviennent du front en dénonçant l'horreur des tranchées et le plus jamais ça. Donc c'est absolument un moment fondateur. Et c'est un moment fondateur qu'on peut très bien mesurer parce que, comme je vous le disais, il y a des mouvements pacifistes qui naissent à ce moment-là et qui vont se développer à une vitesse colossale. Et attention, des mouvements pacifistes dans les années 20, c'est des groupes qui comportent des dizaines, des centaines de milliers d'adhérents. Hein, en France, en Angleterre, en Allemagne, ils s'appellent Plus Jamais de Guerre, Soutien à la SDN, ils ont tous les noms, ils sont plus ou moins radicaux, plus ou moins démocrates, plus ou moins engagés, mais c'est colossal. Hein, c'est-à-dire que partout, il y a des groupes, on le voit, 19, 20, 21, 22, hein, partout se fondent. D'abord le soutien à la SDN, hein, c'est la fondation de la Société des Nations. Voilà, donc ça c'est il y a vraiment des millions de gens qui adhèrent à des associations de soutien à la SDN. Et il y a aussi des mouvements plus radicaux, c'est notamment à ce moment-là, et c'est intéressant parce que ça se relie à votre question sur l'antimilitarisme, c'est à ce moment-là que va se développer l'objection de conscience. Hein, là, il y a l'idée de dire que la guerre est tellement horrible que non seulement il faut lutter contre en général, mais il faut individuellement être capable d'agir. Et la première manière d'agir individuellement, c'est de refuser le service militaire. Et donc de renvoyer, comme on disait à l'époque, son fascicule de mobilisation.
Est-ce que dans cet entre-deux-guerres que vous décrivez là, l'ombre, la lumière plutôt du pacifisme s'étend également sur les partis de droite et sont en partie portés par des responsables politiques dits de droite?
Ah oui, alors dans les années 20, hein, cette idée,
consensuelle.
Elle n'est pas consensuelle parce qu'il y a différentes interprétations de la paix. On pourra y revenir. Hein. Quand on dit pacifiste, il faut y mettre du contenu aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire, jusqu'où, hein, je le disais, il y a des pacifistes plus ou moins conditionnels. Mais effectivement, il y a énormément de gens qu'on qualifierait de droite, conservateurs, que ce soit des militants de partis ou de simples citoyens, qui ont un discours extraordinairement hostile à la guerre, parce que effectivement, ça a été l'hécatombe des tranchées et qu'ils l'ont vécu. Donc oui, ça dépasse largement la gauche, c'est pas une affaire de niche. Alors bien sûr, il reste chez les conservateurs des gens plus attachés à l'ordre militaire, à l'armée, etc. Donc il y a des positions variées, mais tout à fait, c'est ça une des spécificités du pacifisme de l'entre-deux-guerres, c'est qu'il va toucher bien au-delà d'un noyau militant ou d'un noyau très conscient, comme celui qu'on a pu voir à certains moments au XIXe siècle.
Julien Bisson.
Dans l'entre-deux-guerres, il y a une date importante, c'est 1936, le début de la guerre d'Espagne. Comment est-ce que la division des partis de gauche sur le soutien ou pas au régime républicain va nourrir d'une certaine façon cette fracture, cette division entre les idéaux de gauche par rapport au pacifisme?
Alors là, évidemment, c'est le moment où on arrive à la contradiction suprême, hein, parce que on dit parfois, mais c'est un peu simpliste, mais que les années 20, c'est le pacifisme facile. Hein, tout le monde est pour la paix, même s'il y a des tensions, et tout le monde marche ou essaye de marcher, hein, y compris en Allemagne, avec des négociations vers une Europe plus pacifiée après tout ce qui s'est passé entre 14 et 18. Et puis la guerre, là, a fait irruption. Il y a déjà eu d'autres conflits, mais là, elle fait vraiment irruption avec l'Espagne au cœur des enjeux, parce que c'est le fascisme, dans le fond, derrière Franco et derrière les nationalistes. Donc la question, c'est que souvent, beaucoup de gens antimilitaristes, pacifistes sont aussi des gens antifascistes et de gauche, et on va arriver à une contradiction fondamentale. Si on soutient l'Espagne républicaine contre le putsch de Franco et la montée des nationalistes, ben donc c'est la guerre. Et puis avec les alliances, on ne sait pas jusqu'où elle peut mener. Donc dans le fond, on serait infidèle à ce plus jamais ça qu'on a prononcé après la guerre de 14-18.
Et donc il y a un dilemme. Et infidèle dans le même temps à la volonté internationaliste.
Absolument. Donc du coup, là, on est vraiment dans... Et d'ailleurs, on le voit, c'est assez déchirant de lire les textes de l'époque. Hein. Quand vous lisez les points de vue dans la presse ou les brochures qui paraissent, on voit que c'est des gens qui sont vraiment intérieurement déchirés. Ils ont envie très fortement d'aider l'Espagne parce que, évidemment, le camp républicain, c'est leur camp. C'est le camp de la gauche et le camp de l'antifascisme. Et en même temps, c'est reprendre la guerre. C'est reprendre ce qui s'est arrêté il y a 15 ans et déjà... on reprend les armes. Donc c'est évidemment un moment particulièrement déchirant, mais certains vont maintenir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire pacifisme absolu. Hein, on ne fait pas la guerre, c'est le pire des mots. Il n'y a pas de mot qui soit pire que la guerre, donc on ne le fait pas. Et d'autres, assez paradoxalement, qui vont même aller jusqu'à s'engager, parce qu'ils vont considérer que l'antifascisme doit l'emporter.
En quelques mots, il y a une attaque que l'on entend régulièrement dans le débat sur la guerre en Ukraine, c'est l'esprit munichois. Vous êtes animé de cet esprit munichois. Qu'est-ce que cela signifie? Vous en avez déjà un peu parlé.
Alors ça réfère donc aux accords de Munich en 1938, lorsque les démocraties, dans les négociations avec notamment l'Allemagne nazie, ont préféré céder une partie de la Tchécoslovaquie à Hitler plutôt que de risquer un affrontement. Donc du coup, être munichois, c'est préférer céder à l'adversaire pour limiter les embarras et limiter la guerre, plutôt que de lui résister. Donc dans le fond, c'est synonyme de lâchage, de lâcheté. Léon Blum disait « Je suis partagé entre le lâche soulagement et la honte ». Face à cette question.
Mais vous nous dites il faut tenter de mieux comprendre les contemporains, leur position, le pacifisme plutôt que le fascisme.
Bien sûr, parce que évidemment, il y avait des anti-munichois, il y avait des gens qui déjà voyaient bien qu'il fallait pas céder au fascisme, parce que de toute façon, Hitler démantelait progressivement le traité de Versailles, irait toujours de plus en plus loin. Mais on peut dire que évidemment, ces gens voyaient des choses assez lucidement. Mais il faut imaginer toujours en histoire, dans le fond, c'est les expériences qu'ont eu les acteurs quand ils décident quelque chose. Et là, il faut comprendre que ces millions d'Européens qui avaient vécu la guerre de 14, qui en avaient hérité, pour eux, c'était le mal absolu. Donc du coup, quand arrive un personnage, certes, peu recommandable, qui a des actions diplomatiquement, évidemment, illégales au regard du droit international, on pèse un peu les deux. Donc nous, il faut se remettre dans cette perspective-là si on veut comprendre cet esprit munichois. Mais ce qu'il a emporté dans le fond, c'est effectivement la dimension négative, comme vous le disiez, et c'est devenu le synonyme de la lâcheté face à l'adversaire à qui on préfère céder plutôt que de porter le conflit.
Une archive de 1973 sur l'appel de Stockholm de 1950, un appel qui tente justement de faire face au frémissement de la guerre nucléaire.
Tout le monde était d'accord sur une chose, à bas la bombe, vive la paix. En 1950, les partisans de la paix avaient lancé l'appel de Stockholm, réclamant l'interdiction de la bombe atomique. Mais la rivalité des blocs faussait les cartes. Au fur et à mesure, le mouvement de la paix contrôlé par les communistes devenait un instrument de la guerre froide, entre les mains de Staline, contre les Américains, contre le pacte atlantique. Staline, qui lui aussi avait la bombe atomique, et multipliait les essais. C'était dans les pays de l'Est, en URSS et en Chine surtout, que l'appel recueillait la plus grande partie de ces 273 millions de signatures. Alors choisir cette paix-là, n'était-ce pas simplement choisir l'un des deux camps, le communisme? Beaucoup d'intellectuels célèbres nous y invitaient. L'écrivain soviétique Ilya Ehrenburg, le peintre Picasso et l'archevêque de Canterbury, qu'on avait surnommé l'archevêque rouge.
Julien Bisson, sur la grande période de la guerre froide.
Oui, on a entendu que cet appel de Stockholm s'inscrit dans le début de cette guerre froide. Est-ce que cette guerre froide va mettre en scène des pacifistes contre des impérialistes, ou est-ce que c'est évidemment plus nuancé que ça?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après 1945, il y a plusieurs choses qui changent. Il y en a une, qui est une évidence après ce qu'on a discuté, c'est que, dans le fond, le pacifisme, c'est aussi céder face au fascisme. Donc, il y a quand même cette idée d'être munichois qui reste. Donc, il y a une forme de délégitimation du pacifisme, en disant le pacifisme, c'est aussi ce qui a permis à Hitler, dans le fond, de réussir ses opérations jusqu'à la chute. Donc, du coup, il y a quand même l'idée que le pacifisme, c'est plus uniquement une belle idée sortie de la guerre des tranchées, c'est aussi, finalement, un comportement politique catastrophique quand on voit ce qui s'est passé face au fascisme. Donc, il y a cette idée-là. Et en même temps, paradoxe, il y a l'arme nucléaire. Donc là, forcément, est-ce qu'une guerre peut encore avoir un sens quand on peut s'autodétruire mutuellement? Et d'ailleurs, progressivement, même au sein de l'Église, il y a des qui défend l'idée de la guerre juste. Il y a tout un ensemble de théologiens qui vont dire, dans le fond, est-ce qu'une guerre peut encore être juste si elle détruit l'humanité à coup de bombes nucléaires? Donc c'est un paradoxe, ce post-45. À la fois, le pacifisme paraît délégitimé, en même temps, il paraît plus nécessaire que jamais, parce qu'il faut pouvoir lutter contre la menace nucléaire qui, après Hiroshima et Nagasaki, n'est pas simplement vaine. Donc du coup, il y a quand même de grands mouvements pour la paix qui vont se développer, et ceux qui vont s'en servir largement, c'est les communistes. Et le camp donc soviétique, le bloc soviétique, sous l'égide de l'URSS, qui va instrumentaliser, on peut dire ça, l'idée de paix en disant « le camp de la paix, c'est nous ». Évidemment, on est de tradition de gauche, on a pour nous cette idée que le progressisme emmène avec lui le mieux-être de l'humanité, donc la paix. Donc, le mouvement de la paix va naître à la fin des années 40, sous l'égide du Parti communiste, en développant l'idée que, dans le fond, l'impérialisme est toujours porteur de guerre. L'impérialisme, c'est le camp d'en face, donc c'est les Américains, c'est l'OTAN, et que, dans le fond, c'est les Soviétiques qui portent l'idée de paix.
En quelques mots, Nicolas von Schad, vous l'avez déjà souligné, il n'y a pas un pacifisme, mais une multitude de pacifistes, peut-être 50 nuances, mais quelles en sont les grandes tendances, en une minute?
Allez, en une minute. Je dirais que le premier clivage qu'on a un peu évoqué, c'est ceux qui considèrent que la paix est fondamentale et que la guerre est un mal absolu. C'est pacifisme absolu. Donc ça, c'est vraiment... Dans le fond, c'est Le pacifisme. Hein, si vous êtes pacifiste, considèrent certains, vous refusez toutes les guerres, quelles qu'elles soient, parce que c'est une horreur. Donc ça, c'est, je dirais, l'idée théorique qui a été incarnée à différents moments dans l'histoire. Le deuxième type de pacifisme, qui est très important aussi historiquement et qui existe toujours, c'est dans le fond l'idée de mieux organiser les relations internationales par le droit. L'idée de la paix par le droit. C'était le tribunal de La Haye, c'est un peu le TPTI aujourd'hui, enfin le tribunal international. Donc du coup, il y a cette idée dans le fond, la paix par le droit. La paix par les relations internationales, la paix par les institutions internationales, qui a pris beaucoup de coups, puisqu'on a vu combien, non seulement la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres, mais l'ONU a été souvent impuissante face à un ensemble de guerres. Et puis, il y a aussi, pour 50 nuances, j'aurais pas le temps de vous les donner, mais au moins une troisième, allez, c'est quand même aussi un pacifisme qu'il faut pas oublier, parce qu'il a joué un rôle très important, qui est d'origine religieuse. Hein, je veux dire, dans les évangiles, hein, le Christ est celui qui laisse et qui donne sa paix. Et donc, ça s'est incarné dans différents types, aussi bien dans le catholicisme différemment, et plus encore dans le protestantisme. Donc, vous le voyez, dans le fond, d'une extrême gauche radicale jusqu'à un protestantisme institutionnel, il y a effectivement tout un ensemble de positions très fortes pour la paix. Mais il faut insister, elles sont d'autant plus marquées qu'elles s'incarnent dans un militantisme particulier, pas seulement dans les partis.
Merci Nicolas Funchat, bravo aussi pour cet esprit de synthèse et cette pédagogie. Merci beaucoup aussi Julien Bisson. Qu'est-ce qu'on trouve très rapidement dans le 1 cette semaine?
Eh bien, on se pose la question, que faire de nos colères? On trouve des réponses avec la philosophe Sophie Galabru, le psychiatre Serge Tisseron ou encore l'historienne Michel Zancarini-Fournel.
Grande question et belle réponse. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont fait cette émission. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Roxane Poulain à la réalisation. C'était Margot Page et Ludovic Auger à la technique.